Ce soir, il y a un événement. Un événement national. Tout le monde le sait en général, hein, parce que là, on en entend parler partout. On entend parler aux journaux, à la télé, à la radio. Ce soir, il y a l'événement. La France en finale. La France en finale de l'Euro 2016. C'est un événement, hein, national. Mais, comme disait un homme dans la rue cette semaine, cet événement national amène l'espoir à la nation, amène un espoir, redonne le moral aux Français. Et comme on vient de le chanter, tous ont besoin d'être aimés, tous ont besoin d'espoir. Et on s'accroche facilement à toutes sortes de choses qui sont éphémères, qui sont peut-être futiles même parfois. Et on met tout notre espoir là-dedans. Alors qu'on a un espoir qui est beaucoup plus grand, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui a été plus qu'un événement. Et j'aimerais vous parler de l'événement qui a changé la face de la terre, la face de l'humanité. Ça s'est passé il y a 2000 ans, un événement fabuleux, la venue de Jésus sur la terre. Il y a beaucoup d'événements qui ont changé notre nation. Il y a eu des guerres, bien sûr, il y a eu la révolution, il y a eu des coups d'État, il y a eu des catastrophes. Mais celui-là, n'était pas pour un moment donné. Celui-là n'était pas un événement qui s'est passé, qui était fini et puis qui s'est arrêté. Non, c'est un événement qui est venu dans ce monde et qui a touché des nations de génération en génération. Et cet événement, j'aimerais le partager avec vous. Donc, cette venue de Jésus sur terre. Mais pour comprendre la venue de Jésus sur terre, il faut un peu se documenter. Un bon historien, normalement, se documente. Il cherche des documents du passé, des documents qui existent. Et on a la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible qui est le livre le plus imprimé, le plus diffusé, le plus vendu, le plus lu au monde. Vous imaginez un peu? Tant mieux, hein? Tant mieux. Mais on a ce livre. Et on va un peu se pencher dans ce livre encore cet après-midi. Et on va lire quelques textes, alors je vous invite à l'apprendre. On dit dans notre histoire que c'est avant ou après Jésus-Christ. Avant ou après Jésus-Christ. On ne dit pas avant ou après Napoléon. On ne dit pas avant ou après telle personne, et vous pouvez mettre même tous les joueurs de foot que vous voulez dedans, ça ne marchera pas. On ne dit pas avant ou après telle personne, on dit avant ou après Jésus-Christ. C'est qu'il a dû se passer quelque chose de fabuleux quand même. C'est qu'il a dû se passer quelque chose d'important. Alors on va ouvrir la Bible dans Jean 1, verset 1er. Jean 1, verset 1er. Et on va lire jusqu'au verset 17. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit. » Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. On voit ce verset qui est au début du Nouveau Testament, voilà, et qui est au début de ce livre de Jean. La ressemblance est frappante avec le début de la Genèse, le début de la Bible. On voit déjà dans ce texte que Jésus est la parole. Jean compare Jésus à la parole. Mais quelle parole ? Est-ce une parole dite comme ça ? Non. Jean compare Jésus à la parole de Dieu. Il dit qu'il est la parole qui est faite chair. Et on voit dans Genèse 1, à la création, on vient de lire, tout a été fait par la parole et pour la parole. Et on voit dans Genèse 1, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et ainsi de suite, on voit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et au fur et à mesure où Dieu dit, les choses se créent. Les choses sont faites par la parole de Dieu. On vient de lire que Jésus était la parole, qu'il était là au commencement, que tout a été fait pour lui et par lui. J'aimerais juste préciser que Jésus n'est pas un homme comme un autre. Jésus n'est pas venu dans le monde seulement à un moment donné, et on pourrait dire c'est un événement. Mais il était déjà là, avant la création. Il était déjà là, auprès de Dieu. Il est Dieu fait homme. Il était là, avant que tu naisses. Il était là quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il était là, il a toujours été là. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le crois pas, et c'est un espoir pour toi cet après-midi de trouver Jésus dans ta vie. Mais est-ce que tu vas l'accepter ? Est-ce que tu vas le saisir ? Est-ce que tu vas le saisir pour ta vie ? Vous savez, Jésus, sauveur du monde, venu dans le monde pour sauver, on le trouve dans Michée. On va un peu, cet après-midi, regarder... l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on va comparer ce qui a été dit avant la naissance de Jésus. Parce que sa naissance a été annoncée à l'avance. Elle n'est pas arrivée comme ça. Elle a été annoncée à l'avance. Alors on va lire dans Michée. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. On voit ce texte qui peut paraître un peu vague, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais quand on regarde prophétiquement, ce texte est en train de parler de la venue de Jésus, qui naît à Bethléem. On voit que beaucoup cherchent à voir l'avenir, beaucoup cherchent à savoir ce qui va se passer, et là c'était annoncé. À l'avance, des centaines d'années avant que Jésus arrive, était déjà annoncé sa venue. Comment il venait, comment il arrivait, ce qu'il allait faire, tout était annoncé. Comment ne pas croire ? Comment douter que Jésus existe ? Comment douter que Jésus est le Sauveur ? Alors que tous les signes étaient annoncés avant. Alors que tout était dit. Et qu'après vérification, nous qui avons la Bible, qui connaissons ce qu'a fait Jésus dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, comment douter que Jésus est le Sauveur ? J'aimerais juste te dire, doute pas cet après-midi. ne doute pas de qui est Jésus. Ne doute pas qu'il est venu pour sauver, pour transformer ta vie. C'était annoncé déjà à l'avance. Alors, pourquoi sa venue ? Pourquoi Jésus est venu ? On va regarder dans Ésaïe, un livre plus facile à trouver déjà. Dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 35. On va lire pas mal de textes cet après-midi. Hein. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 5. Jésus est venu pour sauver. On va lire à partir, juste avant le verset 5, la fin du verset 4. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. On voit dans ce texte encore une prophétie de Jésus qui vient et d'un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit. Jean-Baptiste va à un moment douter. Il va à un moment douter de qui est Jésus. Dans la faiblesse, dans l'épreuve, alors qu'il est en prison, il va douter, il va se dire, mais est-ce que c'est bien lui ? Est-ce que c'est bien Jésus qui est venu pour sauver ? Est-ce que c'est bien le sauveur du monde ? Et on retrouve ce texte, c'est les serviteurs de Jean-Baptiste vont aller voir Jésus et Jésus va leur répondre, dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent, que le monde trouve le bonheur, la joie, trouve le salut. Il va citer ce texte. Et Jean-Baptiste, qui lui connaît les Écritures, qui lui connaît les prophéties, va être rassuré. Sois rassuré cet après-midi. Peut-être tu ne crois pas que Jésus peut sauver, tu ne crois pas que Jésus peut guérir, tu ne crois pas que Jésus peut transformer. Mais combien ici l'ont déjà vécu ? On peut lever la main ? Combien l'ont déjà vécu ? Amen. C'est un témoignage vivant que vous avez autour de vous. C'est un témoignage vivant de guérison, de transformation, de salut. Et la parole nous donne plusieurs exemples. Comme l'exemple d'un homme qui était à Jéricho, un aveugle. Et cet homme va être au bord du chemin, au bord de l'entrée. Et je vais lire le texte pour vous. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit... « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Cet homme est dans une détresse. Il est dans la maladie. Il est aveugle et toute sa vie est noire. Il est dans les ténèbres. Il est aveugle. Et alors que cet homme est au bord du chemin, il entend toute la foule passer, il entend du bruit, il demande « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Quelqu'un va lui dire « C'est Jésus qui passe. » Le réflexe de cet homme nous parle encore aujourd'hui. Cet homme va crier. Il va dire, « Jésus, fils de David !» Jésus, fils de David. En fait, comme ça, pour nous, ça ne veut rien dire. Jésus, fils de David, oui, il était descendant de David. Peut-être ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Mais pour cet homme, ça voulait dire beaucoup. Parce que Jésus, fils de David, il était en train de dire, « Mais Jésus, celui qu'on attendait, le Messie !» Viens m'aider, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, viens me secourir. Il crie à Jésus en proclamant que Jésus est le Messie, en proclamant que Jésus, descendant de David, est celui qu'on attendait pour sauver, pour changer les vies, pour transformer. Jésus guérit cet homme qui croyait au Messie, mais il va lui dire beaucoup plus que ça. Vous avez vu, il va juste lui dire que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À aucun moment il a demandé que ça, de trouver la foi. À aucun moment il a demandé de trouver le salut. Il a juste demandé de retrouver la vue, lui qui était aveugle. Et peut-être tu es aveugle spirituellement. Peut-être tu es aveugle sur ta vie. Tu es aveugle sur ton péché, ta condition, ton état, qui aura des conséquences dans la vie éternelle. Peut-être tu as comme ces écailles devant les yeux qui t'empêchent de voir et tu entends ces paroles, tu entends que Jésus est là, tu entends que Jésus passe. Mais est-ce que tu seras comme cet aveugle à crier, à proclamer « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Est-ce que tu seras comme cet aveugle qui demandera au Messie de venir dans sa vie, de le transformer, de le changer ? On peut être sourd et aveugle, on l'a vu cette semaine. Sourd et aveugle. On peut entendre des paroles et ne pas les saisir. On peut voir et même toucher du doigt le salut et ne pas le prendre pour nous. On peut regarder des hommes et des femmes heureux qui ont rencontré Jésus et qui vivent au quotidien avec ce salut dans leur vie, mais ne pas l'accepter pour notre propre vie. Ne t'endurcis pas cet après-midi. Ne laisse pas ton cœur vide. Laisse Jésus enlever ses écailles sur tes yeux pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses voir et surtout pour que tu puisses être sauvé. Jésus pardonne les péchés, il sauve. C'est quand même étonnant. Un homme peut-il sauver ? Un homme peut-il pardonner les péchés ? Il va dire d'ailleurs, quand il va dire à un paralytique, Jésus va dire à un paralytique, tes péchés sont pardonnés. Beaucoup vont s'étonner en disant, mais comment il peut dire ça? Et il va dire à ces hommes, mais c'est plus facile de dire quoi? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche, un paralytique? Alors bien sûr, c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés. Hein. Si j'avais le choix entre les deux, je choisirais le plus facile, forcément. Et il a dit, pour que vous croyez. Lève-toi et marche. Et il sera guéri. La guérison peut être aussi un acte qui va nous faire entrer dans la foi, dans le salut. Seigneur guérit le corps, mais il guérit aussi l'âme. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais peut-être il y a des guérisons aussi intérieures à avoir. Parfois, on est bien physiquement, on est bien, tout va bien, mais dans le cœur, il y a comme une blessure. Dans le cœur, il y a comme une maladie, quelque chose qui nous ronge et qui nous empêche d'approcher de Dieu. Le Seigneur peut te guérir cette blessure. Le Seigneur peut guérir ton cœur. Il peut, c'est vrai, te pardonner, mais te donner la joie, le bonheur, te donner la paix, alors que ton cœur, jusqu'à maintenant, était meurtri. Alors que ces pensées de toutes ces choses du passé, guérir de toutes ces choses qui sont venues accabler ton cœur et toutes ces choses t'envahissent et tu ne sais plus, tu n'arrives plus à avancer, tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas croire en Dieu à cause de ce qu'il y a eu. Jésus peut te délivrer aujourd'hui, cet après-midi, peut te délivrer des liens. Le peuple d'Israël va être esclave pendant un temps, esclave de l'Égypte, esclave de l'oppression du Pharaon. Et on peut être esclave dans nos vies de beaucoup de choses. Hein. Esclave des addictions, toutes sortes d'addictions d'ailleurs, qu'elles soient la cigarette, l'alcool, mais aussi la sensualité, toutes sortes de choses mauvaises. Ça peut être aussi esclave de la violence, esclave du passé, comme on l'a dit, esclave d'un acte peut-être qu'on a fait et qu'on regrette. Et ce peuple était esclave, et nous sommes tous esclaves de quelque chose, c'est esclave du péché. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Le péché est venu dans le monde et est venu dans notre vie. Et on est né pécheur. Qui n'a pas un jour renié Dieu? Qui n'a pas un jour vécu sans Dieu? Fait quelque chose qui n'est pas dans les voies de Dieu? Nous sommes tous pécheurs. Le péché, c'est manquer le but, manquer la cible. Et peut-être tu as manqué la cible de ta vie, celle qui aurait pu te donner le bonheur. Et tu peux la retrouver aujourd'hui. Parce que même si tu es pécheur, Jésus peut te délivrer. Et Jésus a délivré le peuple d'Israël. On va lire dans Exode, chapitre 12. C'est ce qu'on appelle maintenant la Pâque. Exode chapitre 12. On va lire à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les deux linteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on mangera l'herbe amère. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien sûr, c'est l'histoire d'Israël. Et on sait combien les Égyptiens, les Hébreux ont souffert dans la main des Égyptiens. Ils étaient éprouvés, esclaves. Mais il y a plus que ça. Si on regarde le côté prophétique de ce texte, on a pris un agneau sans défaut, et on l'a tué. On a tué cet agneau et on a pris son sang. On l'a mis sur le bois de la porte et sur le linteau. Cet agneau, bien sûr, et on l'a chanté tout à l'heure, agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Cet agneau qui avait pour but d'effacer les péchés. Parce que dans l'ancienne alliance, on prenait cet agneau, on le tuait et il y avait la mort sur lui. La mort qui était normalement pour nous était sur cet agneau. Cet agneau, c'est Jésus, pour ta vie encore cet après-midi. Bien sûr, ton péché te condamne. Ton péché t'amène à la mort et l'ennemi de ton âme, le diable, veut t'amener dans la mort éternelle. Mais Jésus a payé le prix. Il est mort et par son sang sur le bois. Quelle belle image. Le sang sur le bois. L'image de Jésus qui est en train de mourir sur la croix. Jésus qui a souffert. Jésus qui a été fouetté, moqué, frappé. Et son sang coule sur ce bois. C'est ce sang qui peut te sauver cet après-midi. C'est ce sang qui peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. Alors, pour finir, on comprend que le message du salut est en Jésus. Mais comme on a débuté, on peut savoir cela, mais ne pas donner sa vie, ne pas regarder vers Jésus. J'aimerais juste vous citer un dernier passage de la Bible, un dernier texte à un moment, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et il va se détourner de la voix de Dieu. Il va lâcher les voix de Dieu et il va commencer à murmurer, à parler contre Dieu. Et là, Dieu va permettre que des serpents rentrent dans le camp. Ils commencent à mordre toutes les personnes qui étaient là. Alors Moïse va prier pour le salut du peuple. Dieu va donner une image. Il va dire, tu vas prendre un serpent d'airain, tu vas l'accrocher à un poteau et tu vas l'élever. Et tous ceux qui regarderont ce serpent seront sauvés. Quand on vient dans ce lieu, quand on proclame la parole de Dieu, quand on ouvre la Bible, quand on témoigne, en fait, on est en train d'élever ce serpent sur ce poteau. On est en train d'élever ce serpent qui est l'image de Jésus. On le trouve dans Jean 3, à partir du verset 14. Jean 3, verset 14, je le lis pour vous. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce serpent qui est l'image de Jésus, qui est l'image de Jésus qui a pris le péché, qui a pris les fautes et qui l'a cloué sur le bois, sur la croix. Et quand on proclame la parole et quand on parle de Jésus, on est en train d'élever ce poteau, d'élever cette croix. Et de vous proposer de regarder. Est-ce que dans le camp, tous ont regardé le serpent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que ceux qui ne regardaient pas, mouraient. Ceux qui ne regardaient pas, mouraient. Le message cet après-midi, qui est, on va rentrer dans le recueillement, le message que je voulais vous apporter, c'est que peut-être tu es là et tu ne sais pas. Peut-être tu es là et t'hésites. Peut-être tu es là et tu as entendu déjà la parole de Dieu. Tu as entendu déjà tout cette croix et Jésus qui est venu et ses prophéties et le salut, être sauvé, être guéri. Tu es devant ce choix cet après-midi encore. Ce choix de choisir ou de ne pas choisir. L'issue, de toute façon, est déjà donnée. Si tu ne regardes pas vers Jésus, malheureusement, c'est la mort éternelle. C'est la Bible qui le dit. Mais si tu regardes à Jésus, c'est un cadeau qu'il te fait encore cet après-midi. Si tu viens regarder cette croix en te disant « Mais je veux être pardonné de mes péchés, je me repens de mes fautes », alors tu peux trouver le salut et la vie éternelle. On va fermer nos yeux maintenant. Pendant qu'on ferme nos yeux, j'aimerais vous donner la possibilité cet après-midi encore de choisir la vie. Jusqu'à maintenant, peut-être vous avez choisi la vie que vous vouliez, la vie que vous aimez, mais vous avez vu que ça ne vous a pas amené là où vous espériez. J'aimerais vous proposer cet après-midi une vie qui surpasse toutes les vies. Une vie qui n'est pas facile, attention. Je ne proclame pas la parole de la vie en rose. Ce n'est pas une vie facile. Mais en tout cas, c'est une vie où on a le salut. C'est une vie où on a la guérison. C'est une vie où on rencontre notre Sauveur et on a cette espérance de vivre éternellement avec Lui. Alors, pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais faire cet appel et demandez à vous si vous voulez accepter cette vie. C'est un acte important cet après-midi. Juste de lever votre main en signe d'acceptation, comme si vous leviez votre main vers Jésus en disant « Prends ma main maintenant ». Si certains veulent accepter Jésus. Amen. Vous avez juste à lever votre main. Amen. Plusieurs mains se lèvent. Je ne vais pas insister. Parce qu'il faut que ça vienne de votre cœur. Il faut que ça vienne de votre envie. Si encore une personne, peut-être, désire accepter Jésus dans son cœur, qu'il lève sa main. Et après, on priera. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le choix, tu n'obliges personne, Seigneur Jésus. Et je veux te prier pour ceux qui ont levé la main, qu'ils puissent rentrer complètement dans tes voies maintenant, abandonner cette voie de perdition, abandonner tous ces péchés, qu'ils puissent se repentir encore et qu'ils puissent vivre chaque jour en ta présence, avoir la certitude du salut dans son cœur. Pose ta main sur mon frère, ma sœur qui a levé sa main. Révèle-toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je te prie de les accompagner dans cette vie qui n'est pas facile, mais une vie tellement belle avec toi. Seigneur, je veux terminer en priant peut-être pour celui qui n'a pas levé sa main, celui qui n'a pas fait ce choix. Je te prie de mettre dans son cœur encore la pensée de l'éternité. Je te prie de mettre dans son cœur peut-être le désir de te rencontrer, qu'il puisse vivre cette vie éternelle, qu'il ne puisse plus s'arrêter et dire non, non, je ne veux pas de Jésus. Tu vois la décision, la responsabilité encore que cette personne a prise cet après-midi, je te prie de la bénir, de toucher son cœur, Seigneur. Ton nom soit béni.